Mais relisons le verset. Elle est Toldot Noach, Noach. Voici les engendrements de Noach, c'est Noach lui-même. Tandis qu'avec Abraham, les engendrements, c'est Isaac. Et avec Abraham, et le, si vous voulez, la signification de la durée du monde prend une toute autre portée. Elle mène quelque part. Tandis qu'avec Noach, elle est dans ce surplace qui rend incompréhensible la destinée, le contenu de la destinée, du sort et des situations, et en particulier la relation à cette épreuve, à ces épreuves au niveau de l'être. Or, le Baal HaTorim a mis en évidence qu'il y a quand même une indication que Noach était Chacham. Mais je vais vous le dire d'abord en hébreu, et puis nous le reverrons dans le texte, mais il était Chacham, Besafetevot, Velemafrea. Ça veut dire, il était Chacham à la fin des mots et à l'envers. Et en effet, si vous prenez la dernière partie du verset, la dernière partie du verset concernant la définition de Noach comme homme juste dit ceci, Et ha-Elokim, it ha-lech Noach. Prenez la fin de chaque mot. Elokim, même, it ha-lech, chaf, Noach, het. Et à l'envers, ça fait Chacham. Il y a une trace de ce qu'il est quand même Chacham, mais c'est à la fin des mots et à l'envers. Alors, de quelle sagesse il s'agit au niveau de Noach? Il s'agit uniquement de la sagesse qui concerne l'avoir, de la sagesse qui concerne les véhicules de l'être et non pas l'être lui-même. Et comment on le comprend? Eh bien, c'est le fait que Noach avait reçu le même appel qu'Abraham, mais Noach l'avait entendu au niveau le plus matériel. Il avait entendu l'appel au salut. Le monde est en danger de perte, il faut sauver le monde, il faut un sauveur. Noach, tu pourrais être le sauveur. Et Noach a entendu qu'il fallait construire une boîte pour sauver les corps. Alors que ce même appel, Abraham va l'entendre à un tout autre niveau. Il faut formuler un mot qui sauvera les âmes. Enfin, peu importe le vocabulaire, mais vous comprenez la différence. Parce qu'en hébreu, Teva, qu'on traduit par l'arche, Teva, ça veut dire une boîte. Et alors, pour ça, il faut le principe d'Archimède, pour savoir le cubage qui lui permet de flotter. Cette Chochma-là, Noach l'a possédée. Tandis que lorsque Abraham entend qu'il faut invoquer le nom de Dieu, alors il est capable de construire cette invocation. Est-ce que c'est clair? Et effectivement, il s'agissait du même appel. Les mesures que la Torah nous donne, et ça intrigue la lecture, la simple lecture, la Torah nous donne les mesures que devait avoir l'arche. Tant de hauteur, tant de longueur, tant de largeur. Vous les reprendrez, et vous verrez que ce sont les mesures qui apparaissent du développement de la valeur numérique des lettres du tétragramme, enfin du Yod-Kevavke. Donc c'est le même appel, c'est la même interpellation, si vous voulez. Mais voilà comment, au niveau de quelle sagesse Noach l'entend? Eh bien, la sagesse du salut matériel, tandis que Abraham l'entend au niveau de la sagesse du salut spirituel. Ça va toujours dans le sens de ce qu'a dit Maïmonide. On ne peut pas nier une certaine chokhma, une certaine sagacité de l'art de vivre à Job. Mais il n'y a que ça. Et en cela, il n'est pas, cette chokhma-là n'est pas une chokhma. C'est la chokhma, mais ça fait et autres, de ma frère. Bien. Alors, si vous voulez, nous pouvons, s'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons reprendre le texte, oui. Vous voulez dire quelle est la thèse du commentaire de Rashi sur Job? Et elle est la thèse du livre de Job lui-même, et qui est que la souffrance de Job est gratuite, qu'elle ne vient pas punir une culpabilité, mais qu'elle n'est pas arbitraire. Nous la retrouverons d'ailleurs dans un des quatre thèses que je vous ai signalées dans le plan d'introduction. Bien, alors nous allons reprendre le texte. Vayoter mufle vetamua. Et donc, ce qui est le plus extraordinaire et étonnant, becholashela azu, dans toute cette question, Shelo tiyer et yo bechokma. C'est que le texte n'a pas défini Job comme sage par rapport à la sagesse. Velo amar ish chacham, et le texte ne dit pas qu'il était un homme sage, au mevin, ou possédant l'intelligence, au maskil, ou capable de comprendre. Ela te'aro bema'ala midotit ve'yosher ma'asim. Le texte l'a défini par une qualité morale et par la rectitude des actes. Ki elu ilu haya chacham. Car s'il était sage, lo haya inyano kashe alav ke moshe idbaer. Ce qui lui est arrivé ne lui aurait pas paru aussi difficile que ça lui a paru, et comme cela sera expliqué. Vehariken, et ensuite le texte, Arach Meora Otav, nous décrit les péripéties de ce qui lui arrive. Les Fiyahas Matsave Bene Adam, selon l'expérience habituelle des situations que vivent les hommes en général, et selon la relation que les hommes ont avec le fait de la souffrance, ce à quoi ils tiennent, et le fait d'en être privé, entraînant une épreuve. Giyesh mi bene adam, car il y a parmi les hommes, mi sheno hared leov dan harechush, des hommes qui ne craignent pas de perdre leur possession, leur bien. Venakel hu be'enav, et c'est une souffrance légère à leurs yeux. C'est pas le fait de perdre sa fortune. Aval ibahalu inyan mutavanim, mais le fait de la mort de leurs enfants, de leurs vivants, les rend fous, mais dans le sens de affolement, pas dans le sens de folie, comme nous avons dit tout à l'heure. Aval ibahalu ibahalehu inyan mutavanim ou mechalehu biyagon. Le texte est formulé au singulier, mais je l'ai dit au pluriel, les hommes. Et ils seront atteints par la, comment dit-on, plus que la tristesse, Yagon, le désespoir. Veyesh bivne Adam, mais il y a parmi les hommes, Mishe Sovel, Veenonitke, Afilu, Leovdanabanim, celui qui peut supporter et n'est pas atteint, même pas, par la perte des enfants, Aval Svidata Kevim, Enyecholet, Lebaral Trusha. Mais de supporter des douleurs physiques, ils ne le peuvent pas. Vechol bene Adam, Kelomar et Hamon, et l'ensemble des hommes, c'est-à-dire tout le monde, Meromemim et Hashem Bilshonam, ou Metaharim Oto Betzedek Vechesed, Beet Oshram Veshalvatam, reconnaissent la grandeur à Dieu dans leur langage et le définissent comme étant juste et Tzedek Vechesed, comme possédant la justice. Et la charité et la bienveillance, lorsqu'ils sont heureux et en tranquillité, obéet isurin anisbalim, ou même lorsqu'ils supportent des épreuves, mais des épreuves qu'ils peuvent supporter, aval me imbaou ameora otalalu haamorim beyov, mais lorsque ces maux que Job a souffert leur arrivent, mehem mishekofer vesover choser zdirut vecholametziut, alors parmi les hommes, apparaissent, premièrement, par exemple, cette réaction de celui qui nie et devient renégat, kofer, vesover, et pense et raisonne, choser zdirut bechol hametziut, un manque d'ordre dans la réalité du monde, kasher abad rechusho, quand, lorsqu'il perd, ça, c'est bien. Mehem, certains autres, mishenishar mahazik bederat sheyesh tzedek veseder afilu imisurei avdan rechush, certains autres qui restent croyants, si vous voulez, même lorsqu'ils perdent leur bien. Aval, mais, im, nityaser, bemitatabani, menosovel. Mais s'il est éprouvé par la mort des enfants, cela il ne le supporte pas, et c'est là qu'il devient renégat. Ou mehem, mishe sovel, ven de otav, mishtabshot, lobeo danabanim. Et parmi eux, il y a des hommes. Parmi les hommes, il y en a qui peuvent encore supporter. Et même la mort des enfants, Abal, Alke, Veagouf, Enechad, Mehem, Sovel. Mais ne peuvent plus supporter, aucun d'entre eux, les douleurs du corps. Elaït, Lonen, Veitzrak, Hamas, mais il se plaint et il crie à la violence, Imbil, Shono, Veimbil, Bavo, soit dans ses paroles, ou soit même dans son cœur. Je voudrais essayer d'illustrer ça par une remarque supplémentaire, qui se relie aussi à la question. Que le Satan avait la permission d'atteindre tout ce qui est l'avoir de Job, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de ce que l'homme laisse dans le monde lorsqu'il passe au-delà. le contenu de la des jouissances affectives éphémères, soit au niveau de la possession des biens, soit au niveau de la relation affective aux enfants, soit au niveau de la jouissance corporelle. Bien, c'est le fait que, au fond, les souffrances qui nous paraissent les plus difficiles à admettre dans le monde, ce ne sont pas forcément les souffrances que l'on souffre soi-même, mais les souffrances des autres. Et il suffit de se rendre compte, ou d'être passé par là soi-même, qu'on a éprouvé soi-même ces mêmes souffrances pour que le tragique et le scandale soient évacués. Est-ce que c'est clair ce que j'essaye d'exprimer là ? C'est-à-dire, la plupart du temps, ce ne sont pas les souffrances que l'on éprouve soi-même qui posent cette question, mais les souffrances imputées à autrui. Pourrez-vous l'éclairer par une anecdote telle qu'elle m'est restée dans la mémoire ? La première permission que j'ai eue pendant la guerre, je suis allé au cinéma. Et je ne me rappelle plus quel film c'était d'ailleurs. Et puis il y avait les actualités qui montraient les soldats sur le front. Et spontanément, j'ai été pris d'une espèce de révolte analogue à celle-là. Comment est-il possible que dans notre monde, il y ait des choses pareilles ? Et subitement, je me suis rappelé que quelques jours avant, j'étais là-bas. Alors tout ce tragique a disparu. Je veux dire, le seul fait de savoir que soi-même est concerné par cette manière d'être du monde évacue ce caractère tragique. Donc, c'est ce que Maïmonide ici nous explique très clairement. Il fallait que Job soit mis à l'épreuve de toutes les sortes d'épreuves possibles qui risquent de mener l'homme à blasphémer. Disons. Mais vous voyez qu'il y avait une limite, c'est-à-dire que l'intégrité de son être ne devait pas être atteinte. Paragraphe suivant. Aval omro bibne Elohim leityasev al Hashem. Mais lorsque le texte dit en parlant des bnei Elohim, c'est-à-dire. D'après la traduction habituelle de la plupart des commentateurs, les anges. Et il nous faut donc définir ce que représente la catégorie de l'ange. Eh bien, c'est la désignation d'un aspect particulier de la providence. C'est-à-dire, lorsque la relation de la volonté de Dieu par rapport au monde est prise dans sa globalité, alors cette catégorie de la providence est désignée par le Shem, le nom total. Le nom étant la relation entre celui qui est Dieu et son monde. Mais lorsque nous désignons cette providence dans une dimension particulière, par exemple telle catégorie de phénomène, ou tel phénomène particulier, tel fait particulier, ou telle personne particulière, telle destinée particulière, alors il apparaît un rétrécissement, une diminution de l'envergure de cette relation de providence. Alors c'est à ce niveau qu'il faut comprendre la catégorie du malach, la catégorie de l'ange. C'est la volonté de Dieu elle-même, mais définie dans l'envergure précise du phénomène considéré. Et par conséquent, nous sommes en présence d'une hiérarchie infinie, de Dieu au monde. Entre Dieu et la créature, à la limite, entre Dieu et l'homme, il y a donc toute une hiérarchie des rétrécissement d'envergure, si vous voulez, de la relation de providence entre le créateur et telle ou telle créature en particulier. Mais la catégorie principale de la tradition juive à ce sujet, mais c'est que dans l'autre sens, de l'homme à Dieu, il n'y a rien. C'est toujours en présence de Dieu lui-même que nous nous trouvons. Le fait, si vous voulez, d'admettre la réalité de ces hiérarchies dans le sens créature-créateur fait apparaître l'idolâtrie. Là, nous sommes dans une analyse un peu difficile, donc je voudrais être sûr de bien m'exprimer. C'est-à-dire, c'est déjà au niveau du vocabulaire biblique, mais comme nous ne sommes plus dans un temps, depuis l'arrêt de la prophétie, d'expérience de la révélation, d'expérience sensible de la révélation, alors cela nous est impossible à identifier, sinon par définition intellectuelle, sinon par définition théorique, si vous voulez. Alors, il est nécessaire que cette catégorie soit bien clairement définie. Ça veut dire qu'il existe donc une infinité de hiérarchies entre l'infini de la providence, défini au niveau du Shem, concernant l'ensemble du monde, le tout du monde, et d'autre part, l'individualité de chacun ou de chaque acte ou de chaque phénomène. Mais tout cela est réel dans le sens de Dieu à moi. Mais dans le sens de moi à Dieu, il n'y a rien que Dieu lui-même. C'est une des lectures du commandement de l'interdiction des idoles dans le Décalogue. Loïe, comment est le verset ? Elohim acherim al panai. Et il n'y aura pas pour vous d'autres dieux devant ma face. Ce sont ces dieux qui sont devant la face, mais que nous ne pouvons pas reconnaître dans le sens créature, créateur. À ce niveau-là, c'est très exactement la théologie du paganisme qui apparaît. Les dieux intermédiaires dont parle la conscience païenne sont très exactement le fait d'ériger en idole, c'est Tzimtzumim, c'est-à-dire d'envergure de la relation de la providence et de leur donner figure, si j'ose dire. Et là, je vous donnerai quelques exemples par rapport au nom des anges qui sont les plus familiers. Si je veux parler de Dieu guérissant, Dieu relié au phénomène de la guérison, alors je parle de l'ange Raphaël. Mais Dieu est l'ange Raphaël, alors que je ne peux pas dire l'inverse. Je ne peux pas dire que l'ange Raphaël, c'est Dieu. Est-ce que c'est clair ? Donc, si je parle, par exemple, de Dieu se révélant dans la catégorie du jugement, alors je parle de l'ange Gabriel. Et donc, je peux dire « Hashem hu Elohim », Dieu, celui qui est Dieu, est aussi cette réalité dont je parle, mais pas l'inverse. Je ne peux pas dire que l'ange Gabriel, c'est ça, Dieu. Ça, c'est une idolâtrie précise. L'idolâtrie qui consiste à ériger comme idole la Midat Hadin, etc. Je pense que maintenant, l'idée est claire. Alors, cette expression, les Bnei Elohim, qui est interprétée donc par le commentaire comme étant les anges, désigne Dieu lui-même en son conseil, si j'ose dire. Lorsque se trouvait exprimée la multiplicité des attributs qui font l'unité de l'essence divine. Ce que le Maïmonide veut nous expliquer ici, c'est que le Satan ne fait pas partie de ces Bnei Elohim dans le premier verset où cela est indiqué, et nous allons essayer de comprendre l'importance de cette note. Aval, Omro bibnei Elohim leitiasev al Hashem, lorsque le texte dit que le jour était venu, le jour du jugement, le jour était venu où les Bnei Elohim se tenaient en présence de Dieu, bepa'am harishona ve'ashnia, aval ha-Satan afalpi sheva bichlalam, en ce qui concerne le Satan, bien qu'il vienne parmi eux, uptocham, et en eux, bepa'am harishona, la première fois, ve'ashnia, et aussi la deuxième fois, hare barishona lo amarbo leitiasev. La première fois, le texte ne dit pas qu'il est venu leitiasé pour faire partie du conseil. Ubashnia amar, et la deuxième fois le texte dit Vayabo gama satan betocham leitiasev al Hashem. Le verset est formulé de la manière suivante, et même le satan est venu parmi eux. La deuxième fois, ça veut dire après que Job ait été soumis aux premières épreuves, et que cependant il soit resté dans sa sérénité, et que le satan vient réclamer le droit de l'éprouver plus. Et Maïmonide ajoute, Ve'a beninyanze ve'idbonen kamamouflaou, comprends bien ce sujet et rends-toi compte à quel point il est important. Ouré et considère, Heach usguli inyanim elu ke'en chazon. Comment me sont apparus ces sujets comme une vision. Ve'hu, et c'est-à-dire, She'inyan li'tiaseva lachem, heyotam nimsaim eshobadim bifkudato. Lorsque le texte dit que les anges viennent en conseil, cela signifie qu'ils sont soumis à l'ordre de Dieu. L'ange n'a pas de liberté, c'est la raison pour laquelle il est figuré au niveau du symbole figuratif, si vous voulez, ayant les pieds droits, non articulés, c'est-à-dire incapable de marcher par lui-même, incapable de s'écarter de la route qui lui est tracée par la volonté de Dieu. C'est-à-dire c'est la volonté de Dieu elle-même, et cette volonté n'est pas autonome par rapport à l'unité divine. Elle ne fait que ce que Dieu décide. Ve'ush einyan yitasev al Hashem hayotam nimsaim meshurbadim bifkudato bechol ma shehu rotze. L'ange est soumis à la décision et à la volonté de Dieu, pekuda, et la mission qui lui est imposée en tout ce qu'il a à faire. Mima she'amar Zecharia barba amirkabot yotzot amar. Il y a ici une citation du prophète Zacharie, dont je vous donnerai simplement l'essentiel, si vous voulez, la substance. Vayahan amalach vayomer elai. Et l'ange me répondit et me dit: Ele arba ruchot ha-shamayim yotzot mi'itiasev aladon kol ha'aretz. Il s'agit là, ce que tu vois dans la vision qui est décrite dans ce passage, ce que tu vois, ce sont les quatre vents, littéralement, vents du ciel, les quatre dimensions de l'espace, les quatre vents du ciel, yotzot mi'itiasev aladon kol ha'aretz, qui viennent du conseil qu'il tenait avec le maître de toute la terre. Le terme de hityatsev est employé dans le verset de Malachi, et c'est le même terme que le texte de Job emploie de nouveau. Hare bier she'en yahas b'nei Elohim yahas ha-satan b'imtinut yahas echad. Et donc le texte indique clairement que la relation des anges à Dieu et la relation du Satan à Dieu n'est pas la même, n'est pas le même yahas. Et là, b'nei Elohim yetzivim v'tadirim yoter, c'est que les anges sont des réalités permanentes, vegam hu yeshlo tafkid mesuyam bimtziut lemata mehem, et que le Satan aussi, mais seulement aussi, a une fonction particulière plus bas que veod miplayam ashalaze, et aussi des choses étonnantes de cette comparaison, shehu kaasher iskir shutetut a Satan bares dafka, le fait que le texte indique que le Satan pas seulement se promener, mais arpenter la terre. La terre, il n'est pas au ciel. Et lorsqu'il a une réclamation à présenter au tribunal céleste, alors il est invité au conseil. Mais il ne fait pas partie de ce conseil. Alors déjà, nous pouvons ouvrir une parenthèse de définition. Ça signifie donc que le Satan procède de ce qui se passe dans le monde de la créature. Et il représente la catégorie de l'accusateur public, si j'ose dire, au tribunal céleste. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un doute à mettre en évidence, eh bien, c'est cela, les paroles du Satan. Et cela procède, si vous voulez, de la lecture de l'identité de la créature elle-même. Dans l'être de la créature, il y a cette force qui fait que le mal advient, et c'est cette réalité, cette catégorie, qui va être définie comme étant l'accusateur public au niveau du tribunal. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que Dieu veut pour l'homme, c'est ce que le monde fait de l'homme, tant que le monde est en cours de développement. Je crois que là, il faut aussi définir le sens du mot en hébreu. Dans le paragraphe suivant, Maïmonide va citer un enseignement de la Gemara qui est extrêmement important, et il va nous montrer que le Satan a trois fonctions. Mais d'abord, je voudrais conclure ce soir sur ce principe. D'abord, il faut éclairer la signification du terme lui-même. Le mot de Satan procède d'une racine qui signifie faire obstacle. C'est-à-dire que si nous devions traduire sémantiquement, il faudrait traduire l'obstacle. Et l'obstacle se dresse chaque fois qu'une approximation risque d'être figée. Et nous voyons bien la relation de ces deux principes. Et c'est parce que Job risque de rester dans l'état où il se trouve et ne pas aller plus loin que le Satan s'occupe de lui, en quelque sorte. Je vous donnerai simplement deux exemples pour éclairer cette notion, et ensuite nous verrons, j'espère plus en détail demain, les citations que Maïmonide fait des versets où ce terme est employé. Et d'abord, un récit qui se trouve dans un des épisodes de la vie de Moïse. Lorsque Moïse revient de chez Jéthro, du pays de Midian, pour retourner en Égypte 40 ans après sa fuite, et pour s'occuper d'aider au salut d'Israël, eh bien, la Torah indique qu'il a une révélation, et Dieu lui indique: tes ennemis, à cause desquels tu t'étais enfui d'Égypte, ont disparu. Alors tu peux revenir. Et le texte dit que, sur le chemin, Moïse passe la nuit dans une auberge et qu'il s'endort. Et dès qu'il s'endort, et le verset indique que Dieu se jette sur Moïse pour le tuer. Et le terme de les sikno apparaît. Nous vérifierons d'ailleurs dans le verset. Mais c'est en tout cas, même si le terme n'apparaît pas directement, le principe qui peut nous servir d'illustration. Alors on s'étonne, qu'est-ce qui se passe là? Et vous savez à quel point les commentateurs ont tenté de nous faire comprendre le plus clairement possible cette scène. Il m'est arrivé de lire énormément d'interprétations modernes, enfin surtout chez les psychologues qui s'occupent de ces questions, et qui tentent de donner des explications plus ou moins psychologiques. Enfin, laissons ça de côté. Et qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans cette scène? C'est le fait que, alors que Dieu a mis Moïse en confiance, en lui disant « tes ennemis ont disparu, tu peux retourner en Égypte », et puisque le texte indique explicitement que Moïse s'est endormi, le commentaire en profite pour dire « depuis qu'il avait quitté l'Égypte, c'est la première fois qu'il s'est endormi. C'est la première fois qu'il dormait vraiment. » Pendant les 40 ans où il était chez Jéthro, il ne dormait pas, disons tout simplement à cause des problèmes qui l'empêchaient de dormir. Mais dès qu'il entend cela, que ses ennemis ont disparu, alors il s'endort. Et au moment précis où Dieu l'a mis en confiance et il peut enfin dormir, Dieu se jette sur lui pour le tuer. Et puis la suite de la scène nous apprend qu'il y avait aussi une inadéquation d'être. C'est sa femme qui comprend ce qui se passe, qui se précipite pour circoncire Gershom, l'enfant de Moïse que Moïse n'avait pas circoncis. Et par le fait que l'enfant est circoncis, Moïse est sauvé. Et donc l'étonnement de cette scène, c'est pourquoi Dieu se jette sur Moïse pour le tuer. Et le texte est très violent dans sa formulation même. Bien, la réponse est la suivante. Si Dieu pouvait tuer Moïse, c'est que ce n'était pas Moïse. Et il s'agit effectivement d'une épreuve d'identité. Nous allons essayer, si vous voulez, de le lire à deux niveaux. Et le fait que le sommeil de Moïse dévoile qu'il était plus préoccupé de son sort personnel à ce moment-là que du sort de son peuple. Et le fait qu'il n'ait pas circoncis son fils parce qu'il allait en voyage. Et nous apprenons effectivement que c'est dès que Gershom est né, que Moïse, vous verrez ça dans le chapitre de l'Exode qui en parle, que Moïse décide de retourner en Égypte, qu'il entend enfin cet appel du retour en Égypte pour s'occuper de sauver Israël. Et la halakha dit elle-même que lorsqu'on est en voyage, le danger est tel qu'on peut retarder la circoncision. Mais Tsipora comprend, la femme de Moïse, comprend la gravité de cette épreuve. Il faut que Moïse soit intègre, non seulement au niveau des actes, mais au niveau de l'être, qu'il soit à la fois en accord avec l'identité de son peuple et d'autre part avec la loi, le principe de la loi qu'il doit recevoir. Ce n'est pas parce que le moment du salut arrive qu'il faut arrêter la circoncision qui, depuis le temps des patriarches, était le signe de l'alliance d'Abraham. Le principe est le suivant. C'est-à-dire, si Dieu avait réussi à tuer Moïse, c'est que ce n'était pas cet homme qui était Moïse. De la même manière, si le Satan avait réussi à faire blasphémer Job, c'est que ce n'est pas cet homme qui était l'homme de la souffrance du juste. Est-ce que c'est clair? Vous voyez quelle est la fonction du Satan? C'est-à-dire de mettre à l'épreuve en faisant obstacle à celui qui risque de se figer dans une approximation d'authenticité et ne va pas jusqu'à l'authenticité elle-même. Ceci pour dire en tout cas qu'il s'agit d'une catégorie et des forces du monde créé et non pas d'une personne, et qu'en aucun cas nous pouvons lire Satan comme un nom propre, et dans aucun des textes de la Bible, et en particulier celui de Job, il n'est employé ainsi, mais il y a toujours Ha-Satan. Il faut comprendre que c'est celui qui risque de réussir qui est mis à l'épreuve lorsqu'il s'arrête à une étape d'approximation de la réussite. Il y a un obstacle qui l'empêche de rester dans l'état où il est, pour faire éclater cette tentation de rester à un stade approximatif. La deuxième illustration que je voulais vous donner, c'est le thème très important qu'enseigne le récit historique de désengendrement de l'identité d'Israël, c'est le fait que toutes les mères d'Israël sont stériles très longtemps. Stérile n'est pas le mot exact, puisqu'en français ça signifie qu'elles ne peuvent pas enfanter, alors qu'il s'agit donc de femmes qui peuvent enfanter, mais qui sont empêchées d'enfanter jusqu'à un certain temps de maturité. Chaque fois qu'une étape doit succéder à l'étape précédente, chaque fois qu'un événement de maturation doit mener à un niveau supérieur de l'identité, eh bien il y a un empêchement de l'enfantement tant qu'il n'y a pas certitude que la mutation sera réussie. Il y a en particulier au niveau de l'histoire des rapports entre Jacob et Rachel, un verset qui l'indique de façon très claire, lorsque Rachel se plaint de ne pas avoir d'enfant, alors que Léa en a déjà, alors elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je suis morte. » Et Jacob répond, « Est-ce que je suis à la place de Dieu qui t'a empêché d'enfanter ?» Alors on apprend ici une chose extrêmement étonnante et paradoxale. Alors que depuis Sarah, nous savons que c'est Dieu qui fait enfanter et la matrice de l'identité d'Israël, voilà qu'au niveau de Rachel, Jacob dévoile que c'est Dieu qui l'empêche d'enfanter. Et le sens est que tant que Rachel n'arrive pas, ou Rachel, ou Rebecca, ou Sarah, ou Hannah, chaque fois que nous rencontrons ce thème, n'est pas au stade où l'enfantement est véritablement un engendrement et pas une démultiplication par copie conforme, eh bien, il y a empêchement et il y a stérilité. C'est un thème extrêmement important. Là encore, Dieu agit à travers le Satan, c'est-à-dire pour faire obstacle à quelque chose qui ne serait qu'une approximation. Vous voyez comment ces deux exemples sont complémentaires. Lorsque Moïse risque d'être un Moïse midianite, alors Dieu se jette sur lui pour le tuer. S'il avait réussi à le tuer, ce n'était pas Moïse. Et si les mères d'Israël, deuxième illustration, risquent d'enfanter une approximation de l'identité d'Israël, alors il vaut mieux les empêcher d'enfanter jusqu'à ce que la maturation soit possible. Dans l'un comme dans l'autre cas, nous voyons la fonction du Satan apparaître. C'est celui qui est voué à l'avenir d'un dépassement qui rencontre les obstacles et les difficultés lorsqu'il risque de se figer dans un état d'approximation. C'est-à-dire, le Satan ne s'occupe pas des autres que des tzadikim. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bien parce que Job est tzadik que le Satan s'occupe de lui. Mais parce que c'est seul celui qui peut réussir qu'on accuse du risque d'échec. Pour l'autre, il n'y a même pas de risque d'échec. Le Satan le laisse tranquille. Et ce deuxième thème est un thème extrêmement important parce qu'il a très souvent été cité comme illustration de l'identité d'Israël lui-même. Pendant très longtemps, nous sommes sortis de ce temps-là à peine, mais pendant très longtemps, toute l'atmosphère qu'il y avait dans la culture générale autour de l'existence du peuple juif, c'était cette stérilité très longue. Je pense que vous comprenez de quoi il s'agit. Par exemple, ces phrases des... Je vous cite simplement de mémoire ce que Renan a pu dire dans l'histoire du peuple juif. Cet arbre qui était fécond et qui était capable de donner des branches et des fleurs et des fruits est devenu une souche stérile. Et pendant très longtemps, le peuple juif est apparu, à travers les 2000 ans de cet exil, est apparu comme étant stérile, à la manière des mères d'Israël, stérile longtemps, stérile donc entre guillemets, longtemps jusqu'à ce que la maturation permette que l'accouchement se fasse. Et ce n'est qu'en fin de compte que l'enfant apparaît. Et d'ailleurs, quand l'enfant apparaît, il est apparu de notre temps, il s'agit d'Israël, eh bien, qui dévoile que le peuple juif était fécond. Quand l'enfant apparaît, tout le monde commence par rire, ça c'est Isaac, et puis le frère lui-même veut l'assassiner, ça c'est Ésaü. Mais finalement, c'est quand même Jacob qui devient Israël. Bien, alors j'espère que nous pourrons disposer d'un peu plus de temps demain pour terminer ce chapitre au moins.